Voici les deux textes liturgiques pour ce sixième dimanche après l'épiphanie. L'épître est tiré de Saint Paul aux Thessaloniciens. Mes frères, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse les œuvres de votre foi, les travaux de votre charité et la constance de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Car nous savons, frères chéris de Dieu, que vous avez été choisis. Notre évangile ne vous a pas été prêché seulement en parole, mais avec puissance, avec le Saint-Esprit, avec pleine persuasion. Vous n'ignorez pas d'ailleurs que nous avons été au milieu de vous à cause de vous. Vous êtes devenus nos imitateurs, et ceux du Seigneur recevant sa parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous avez été des modèles pour vous, pour tous les croyants de la Macédoine de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur s'est répandue par vous dans la Macédoine et l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Aussi n'est-il point nécessaire que nous en parlions, car ces peuples eux-mêmes racontent quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous êtes convertis au Seigneur, quittant les idoles pour servir le Dieu vivant et véritable, et pour attendre du ciel son Fils, et qu'il a ressuscité d'entre les morts Jésus, qui nous a délivrés de la colère à venir. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit au peuple cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite des semences, mais lorsqu'il a... Il a poussé, il est plus grand que toutes les plantes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses rameaux. Il leur dit encore cette parabole. Le royaume des cieux est semblable au levain qu'une femme prend et mêle dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, ne lui parlait qu'en parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je révélerai des choses cachées depuis la création du monde. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces pour ceux qui viennent à la messe en semaine à Plat Dièse. Donc, cette semaine qui vient, j'ai ma mission dans le nord de la France. D'abord près de Rouen, puis Alençon, Nantes. Donc il y aura la messe que lundi à 8h, donc pas de messe toute la semaine, mais dimanche prochain évidemment ici. Attention, dimanche prochain sera le dernier dimanche du mois, donc nous aurons le premier repas de paroisse. Donc essayez évidemment d'être là pour que recréer, ça c'est très important pour moi, recréer une vie sociale autour de la paroisse. C'était la force du Moyen-Âge, c'est la vie paroissiale, il faut recréer tout cela. Donc, repas tiré du sac dimanche prochain, après la messe. Bien sûr, pas de cours de doctrine ce mercredi à cause du fait que je ne suis pas là. Au niveau des retraites, nous sommes à 37 retraitants maintenant. Donc, la première, deuxième, troisième et cinquième retraite sont pleines. Quand il y a encore de la place pour les autres retraites. Donc, n'attendez pas, surtout pour ceux qui m'écoutent sur Internet. Beaucoup m'ont dit, monsieur Leblanc, on veut venir en retraite, mais... Tant que j'ai pas reçu les feuilles d'inscription, je n'inscris pas les gens, évidemment. Donc, n'attendez pas le dernier moment pour venir vous inscrire pour les retraites. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, les deux textes d'aujourd'hui, deux paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, le grain de sénevé et le levain dans la pâte représentent la même chose. C'est le symbole de la prodigieuse fécondité de l'Église catholique. Nous sommes les enfants de l'Église, et cette Église, c'est le corps mystique du Christ. Et le corps mystique du Christ veut envoyer justement des enfants dans le monde entier, convertir le monde entier pour qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et un seul pasteur. Et c'est ce que nous voyons ces deux paraboles qui expliquent l'esprit missionnaire de l'Église. L'esprit missionnaire de l'Église, c'est-à-dire que l'Église veut envoyer des gens pour convertir les gens. N'oubliez pas le grand dogme de foi. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, parce que personne ne peut se sauver en dehors de l'Église catholique. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les points de doctrine qui sont les plus importants sont les points de doctrine qui sont les plus critiqués, les plus condamnés par nos adversaires. Je vous l'ai déjà dit aussi souvent, il faut ouvrir les yeux et voir les choses en face. Hein. Le plus grand adversaire de la foi catholique aujourd'hui, c'est M. Bergoglio à Rome. Hein. Et regardez la force avec laquelle il insiste, pas de prosélytisme, pas de prosélytisme, pas de prosélytisme. C'est quoi le prosélytisme? C'est l'esprit missionnaire. Pas de prosélytisme, ne cherchez pas à convertir les gens parce qu'on peut aller à Dieu avec toutes les religions. Eh bien, c'est ce point de doctrine qu'il nous faut le plus défendre. Il nous faut avoir cet esprit de prosélytisme, esprit missionnaire, être missionnaire pour appeler les gens à notre Seigneur Jésus-Christ, pour que justement les gens puissent se sauver. C'est le symbole de ces deux magnifiques paraboles du Christ. D'abord, le grain de sénévé qui est planté dans un champ qui a été préparé. Le grain va lever, va donner un arbre, dit l'Évangile, et les oiseaux du ciel vont venir y nicher. Et les catholiques vont pouvoir venir trouver refuge dans les branches de l'Église. Et ces oiseaux du ciel aussi vont représenter toutes les grâces que le bon Dieu a préparées, les grâces qu'il veut donner par son Église. C'est par l'Église catholique que les grâces viennent, par notre Seigneur Jésus-Christ. Les grâces ne peuvent pas venir en dehors de l'Église. Certes, notre Seigneur Jésus-Christ peut donner des grâces de conversion en dehors de l'Église. C'est-à-dire qu'il peut, il n'est pas forcément obligé de passer par le prêtre, par la messe, par les sacrements de l'Église pour donner des grâces. Il peut passer directement. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de contact avec l'Église catholique et qui ont pu recevoir des grâces de conversion. Mais normalement, le moyen normal par lequel les grâces passent, ce sont les sacrements. Voilà pourquoi il nous faut avoir, mes bien chers frères, cet esprit missionnaire. Et la deuxième parabole représente exactement la même image. Cette fois-ci, c'est la mère de famille qui cache dans sa farine, en 3 mesures de farine, quelques grammes de levain. Et le levain va faire monter toute la pâte. Et à ce moment-là, la mère de famille va pouvoir transformer cette farine en pain et nourrir elle-même et la famille. C'est ça l'esprit missionnaire. Un esprit missionnaire bien compris commence par soi-même. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Il faut commencer par avoir cet esprit missionnaire pour soi, c'est-à-dire vivre en état de grâce. Et une fois qu'on a vécu qu'on vit en état de grâce, à ce moment-là, on peut faire passer les conséquences de cet état de grâce à tous ceux qui nous entourent. Il y a une autre parabole qui n'est pas dans l'évangile d'aujourd'hui, mais que j'aime bien utiliser pour expliquer ces deux premières paraboles d'aujourd'hui. C'est la parabole aussi très connue du cierge sur le chandelier. Notre Seigneur Jésus-Christ explique que lorsqu'on est dans une pièce sombre, on va allumer la bougie, mettre la bougie sur le chandelier, et on ne met pas le chandelier sous le boisseau, dit-il, on met le chandelier sur la table, pour que la lumière puisse éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Et considérez et comprenez bien une chose, c'est que qu'il y ait une personne ou 10 personnes dans la pièce, la lumière ne perd pas de sa force, même s'il y a 10 personnes, c'est toujours la même lumière. Cette lumière représente la vertu de charité. Le cierge représente notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Rappelez-vous le cierge pascal que le prêtre bénit solennellement au cours de la vigile pascale. Le cierge représente justement par sa blancheur, représente le mystère de l'incarnation, disent les pères. C'est la pureté de notre Seigneur, la pureté du cierge représente la pureté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui est représenté par ce cierge, c'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y a un baptême, on ressort le cierge pascal, et on prend la lumière qu'on donne à la fin du baptême au parrain, on prend la lumière au cierge pascal, parce que la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ vient de sa divinité. Et cette lumière, ce cierge pascal qui représente notre Seigneur Jésus-Christ, est allumé, ça c'est la vertu de charité qui sort directement de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, est placée sur le chandelier. Et ce chandelier, qu'est-ce qu'il représente? Mais ce chandelier, mes bien chers frères, c'est vous et moi. Le cierge, c'est le Christ. Le chandelier, c'est le porte-Christ. C'est le porte-Dieu. Nous devons être des chandeliers dans le monde moderne. Le bon Dieu nous demande que nous soyons comme cette petite lumière toute petite, qui va percer l'obscurité du monde moderne. La caractéristique du monde moderne, c'est l'obscurité. Parce que le démon aime bien l'obscurité. Au contraire, notre Seigneur Jésus-Christ l'a bien dit, il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde, il veut être la lumière du monde. Et toutes ces belles phrases, ces belles comparaisons données par notre Seigneur lui-même, il est la lumière du monde, il est le sel de la terre, il est le grain de sénévé, il est le levain dans la pâte. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut justement que ce levain, que chacun d'entre nous, nous soyons comme le levain dans la pâte, qui fait lever la pâte et qui permet à la pâte d'être transformée en pain et donc de nourrir les hommes. Nous avons devant nous des gens qui meurent de faim, mes bien chers frères, qui meurent de faim spirituellement parlant. Et il faut que nous soyons suffisamment forts pour pouvoir justement amener notre Seigneur Jésus-Christ aux âmes. Le bon Dieu veut passer par chacun d'entre nous, c'est ça l'esprit missionnaire. Monseigneur Lefebvre nous le disait tout le temps en séminaire, le premier signe qu'une église est en train de mourir, c'est la perte de l'esprit missionnaire. Perte de l'esprit missionnaire. Regardez ce qui se passe actuellement dans le monde entier, il n'y a plus du tout l'esprit de mission. Puis l'esprit de mission, et donc on envoie encore des missionnaires dans le monde moderne, dans l'église moderne, et pour creuser des puits, ou apprendre aux gens à compter et à cultiver leurs champs, c'est très bien tout ça, mais ça c'est du domaine naturel. Le premier rôle du catholique c'est quoi? C'est convertir les âmes. Le premier rôle du catholique c'est quoi? C'est de vivre en état de grâce pour pouvoir transmettre cet état de grâce à tous ceux qui sont autour de lui. Voilà ce que nous demande notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ veut que nous soyons, que nous ayons cet esprit missionnaire. Donc, réfléchissez à tout ça. Nous devons être des portes Christ. Nous devons être des portes Dieu. Est-ce que nous sommes ces portes Christ? Il faut que lorsque les gens nous voient vivre dans notre milieu familial, notre milieu professionnel, notre milieu social, il faut qu'ils puissent voir notre Seigneur Jésus-Christ derrière chacun d'entre nous. Il faut qu'ils puissent voir cette énergie extraordinaire que Dieu seul peut donner pour justement illuminer le monde. N'oubliez pas qu'une petite flamme de rien du tout, on peut allumer un grand incendie. Une autre comparaison que j'aimais bien, c'est Monseigneur Williamson qui avait sorti cette comparaison à un sermon d'ordination, je me rappelle. J'aime beaucoup cette comparaison. Il dit là, il compare l'âme en état de grâce, l'âme d'un catholique dans le monde moderne, à la petite veilleuse sur une gazinière. Une toute petite flamme de quelques millimètres de long, presque rien. Apparemment, ça sert à rien. On la voit même pas, cette flamme. Elle chauffe pas. Mais elle est là. Elle fait 1 ou 2 millimètres de long et elle est là. Mais si elle est pas là, il y a rien qui marche. Si elle est là, vous tournez le gaz et tout s'enflamme et à ce moment on peut chauffer ce qui doit être cuisiné et chauffé. Eh bien, nous devons être, mes bien chers frères, cette petite gazinière, cette petite flamme de la gazinière, et lorsque le bon Dieu, parce que c'est lui qui commande, décide de tourner le gaz, à ce moment-là, ça s'enflamme. Donc, soyons à notre place, mes bien chers frères. Est-ce que nous sommes cette petite flamme toujours prête? Une autre comparaison qui est très belle, que j'aime beaucoup aussi, j'ai souvent utilisé, comparaison qui vient de Sainte Bernadette Soubirous. Sainte Bernadette Soubirous, qu'est-ce qu'elle dit? Soyons un balai. Je veux dire, c'est pas très glorieux d'être un balai. On a un balai, le balai est dans un placard. Un placard, il y a poussière, il y a les araignées, il y a les souris, il y a rien du tout. Tout est noir. Il faut être dans le placard. Et je sers à quoi dans le placard? Vous êtes dans le placard, vous êtes là où le bon Dieu vous veut. Et quand l'enfant Jésus a besoin de balayer, il ouvre le placard, il prend le balai, il balaye. Alors, on est tout content parce que là, on sert à quelque chose. Il ne s'agit pas de dire pour nous, ben, moi, je ne sers à rien dans ce placard, donc je cherche ailleurs. Donc, quitte le placard. Et lorsque le bon Dieu ouvre le placard, il n'y a plus de balai. Il faut être un balai. Et si le bon Dieu veut que vous soyez un balai, soyez un bon balai. À quoi ça sert les balais? Monsieur l'abbé, je peux aller au ciel en étant un balai? Oui. Oui, il n'y a pas de balai, pas besoin de balai au ciel, mais il y a besoin de balai pour aller au ciel. Et donc, il faut, mes bien chers frères, impérativement comprendre ces choses-là. Il y a toute une série de comparaisons qui sont là très belles. Il faut que le catholique, dans le monde moderne, doit être à la fois nourriture et lumière. Il doit être le porte-Christ, donc il est la lumière. C'est pour ça qu'on met le chandelier allumé sur la table et pas sous le boisseau. Notre Seigneur Jésus-Christ explique bien que la tentation, c'est de garder la lumière sous le boisseau. Non, il faut qu'on la voie, il faut qu'elle soit mise sur la table pour que tout le monde puisse la voir. Et une petite lumière dans une salle complètement noire, complètement obscure, eh bien, elle va rendre c'est le symbole de la vertu d'espérance aussi. La vertu d'espérance,
la vertu d'espérance qui va alimenter la charité. N'oubliez pas qu'on ne peut pas avoir de charité, la vertu de charité sans la foi et l'espérance. On peut avoir la foi et l'espérance sans la charité, mais l'inverse n'est pas vrai. Et donc, il faut impérativement, mes bien chers frères, que nous soyons, que nous ayons cette alimentation. Notre Seigneur Jésus-Christ donne aussi d'autres exemples, comme par exemple la lampe à huile. La lampe à huile, c'est ça. Une lampe à huile, c'est un réservoir avec de l'huile dedans, une mèche, et on allume la mèche, et tant que la mèche est en contact avec l'huile, elle brûle. Mais s'il n'y a plus de contact entre la mèche et l'huile, parce qu'il n'y a plus d'huile, ou parce que la mèche ne touche pas l'huile, elle ne sert à rien, cette mèche. Alors, mes chers frères, soyons une belle lampe à huile. Une autre comparaison aussi, il y en a beaucoup dans l'Évangile, une autre comparaison qui explique exactement la même chose, c'est la comparaison des talents. Le bon Dieu donne des talents différents à chacun d'entre nous. Vous avez tous reçu des vertus spéciales, des grâces spéciales, moi aussi, et il faut être fidèle à ces grâces. Et n'oublions pas que si j'ai reçu deux talents, le bon Dieu ne se contente pas des deux talents. Il ne s'agit pas de se dire j'ai reçu deux talents, donc je rends deux talents au bon Dieu, comme ça sera content. Non! J'ai reçu deux talents, il faut en donner quatre. J'ai reçu cinq talents, il faut en donner dix. J'ai reçu dix talents, il faut en donner vingt, etc. Donc pensons à remercier le bon Dieu pour tous ces talents. Pensez à tous les gens qui n'ont rien. Les pauvres gens qui vont à Nouvelle Messe, qu'est-ce qu'ils reçoivent de leur prêtre? Rien du tout. Il est évident que le bon Dieu ne va pas juger de la même façon quelqu'un qui n'a rien reçu que quelqu'un qui a reçu énormément de talents. Le jour où vous et moi nous allons mourir, il va falloir que vous expliquiez un petit peu où vous allez à la messe ce dimanche. Et bon Dieu va vous demander, attention, tu as eu la messe traditionnelle, tu as eu la tradition de l'Église, tu as eu la grâce d'avoir les vrais sacrements. Lorsque tu reçois la sainte absolution, et vraiment le pardon des péchés, lorsque tu reçois l'hostie consacrée, il y a vraiment notre Seigneur Jésus-Christ présent dans cette hostie, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Quand vous allez dans l'Église moderne, qu'est-ce que vous recevez? Un bout de pain, vraisemblablement. Si les prêtres ne sont pas prêtres dans l'Église moderne et qu'ils donnent l'absolution, qu'est-ce qu'ils vaut l'absolution? Rien du tout. Et vous avez tout reçu. Et donc j'ai reçu plus de talents que les autres, et donc le bon Dieu, logiquement, va demander davantage de choses. Le bon Dieu a le droit de demander en fonction de ce qu'il a donné. Il faut penser à tout ça. Il faut penser à tout ça et ne jamais oublier tout ça pour que les gens puissent voir en nous notre Seigneur Jésus-Christ qui brille. Il faut que chaque catholique de tradition soit un cierge qui brûle, ça ne sert à rien. Un cierge qui brûle, c'est de telle façon que les gens nous voient vivre et derrière notre façon de vivre puissent voir notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai souvent donné ces exemples qu'on trouve dans la vie des saints. Il y en a un qui me plaît énormément, un exemple qui me plaît beaucoup. Je vous l'ai déjà souvent cité, mais c'est exactement notre histoire. Rappelez-vous le saint curé d'Ars, qui reçoit la visite d'un protestant anglais, qui vient avec ses amis, qui a fait tout le voyage depuis l'Angleterre pour voir le saint curé d'Ars, qui en a entendu parler. Il parle avec le saint curé d'Ars, et lorsqu'il rentre chez lui en Angleterre, ses amis lui demandent, mais t'as vu quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Il répond, je vais aller voir un homme et j'ai vu Dieu. Je vais voir un homme et j'ai vu Dieu. Eh bien, c'est ça. Il faut que les gens autour de nous, en nous voyant, puissent voir, derrière, il y a quelque chose. Derrière, il y a le bon Dieu qui brille. Derrière, il y a la flamme de la charité divine qui brûle. Il faut que notre âme soit comme un petit miroir, en quelque sorte. On regarde le miroir, et dans ce miroir, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que l'humanité, en quelque sorte, notre humanité soit unie en quelque sorte à la divinité. Ça, c'est tout le travail de la charité. Quand on vit en état de charité, c'est-à-dire quand on vit en état de grâce, c'est ça la charité. La charité, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité, de toute façon, il ne faut pas oublier. Quand on vit en état de charité, on renouvelle en nous le mystère de l'incarnation. De même que la très sainte Vierge Marie, lorsqu'elle a accepté le jour de l'Annonciation, lorsqu'elle a donné son fiat, elle va voir unie en elle, dans son sein très pur, l'humanité qu'elle va donner à notre Seigneur Jésus-Christ, qui va être unie à la divinité. C'est pareil pour nous, mes chers frères. Puisque nous sommes d'autres Christ, n'oubliez pas, nous sommes des porte-Christ, des porte-Dieu, et si nous sommes des porte-Christ, nous allons devoir unir notre humanité avec la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce dont les hommes du monde moderne ont besoin, ce n'est pas de l'humanité du Christ, c'est la divinité du Christ qui unit à notre humanité, à ce moment-là, va mener au mystère de la rédemption. Et donc, c'est tout notre travail, mes bien chers frères. Le travail des fidèles, c'est justement ça. D'abord, rester en état de grâce. Attention, pas oublier ça, le plus important. On reste en état de grâce, et ensuite, on transmet cet état de grâce par notre façon de vivre, pour obliger les gens à penser à notre Seigneur. Nous, prêtres, on le voit très bien avec un détail qui est extraordinaire, c'est la soutane. Quand je me promène en soutane dans un grand magasin pour faire mes courses ou dans une galerie marchande, je vois très bien, je me rends très bien compte, les gens autour de moi sont obligés de penser à Dieu parce qu'ils voient la soutane. Même si ce sont des païens. Même si ce sont des païens. Parce qu'ils sont obligés de faire ce lien entre la soutane et notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai déjà raconté plusieurs fois, je répète pour ceux qui peut-être ne connaissent pas cette histoire, qui m'a énormément frappé, c'est certainement un détail mais qui a marqué ma vie de prêtre. Je vous l'ai déjà raconté plusieurs fois, je raconte pour ceux qui ne la connaissent pas, surtout ceux qui m'écoutent sur Internet. J'étais une fois en train de faire des courses, j'étais en train d'attendre en ligne pour payer mes emplettes. Devant moi, il y avait une maman qui avait un petit bébé qui avait, je ne sais pas, 3 ans à peu près, qui était sur son épaule. Le bébé se dormait et donc regardait par derrière, la tête tournée vers l'arrière, le dos de sa mère. Et derrière, j'étais derrière en attendant, je regardais le bébé. Le bébé ouvre les yeux, il voit la soutane. Il voit la soutane et il s'est mis à crier « Maman, Jésus !» Un gamin de 3 ans qui a fait le lien entre la soutane et notre Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être que ce gamin n'était même pas baptisé, je ne sais pas. Est-ce que nous sommes capables de faire ce lien? Il faut que lorsque les gens vous voient dans la rue, ils puissent dire, là il y a Jésus, là il y a notre Seigneur, là il y a le Christ. Parce que le Christ est là, parce qu'il y a la vertu de charité. Là où il y a la charité, il y a le Christ. La charité c'est ça? La charité c'est quoi? Monseigneur Lafayette nous disait tout le temps au séminaire, ne compliquez pas la définition de la charité. La charité, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Quand vous avez la charité en vous, vous êtes un tabernacle vivant. C'est ce qu'était la très sainte Vierge Marie. Un ciboire vivant. Quand vous communiez, vous devez être un ciboire vivant. C'était une belle histoire dans la vie de Saint Philippe Néri. Saint Philippe Néri avait remarqué dans l'assistance, à sa messe, une dame qui venait communier tous les dimanches. Et puis, sitôt la messe terminée, hop, elle partait tout de suite sans faire aucune action de grâce. Il a voulu lui donner une leçon. Un jour, un dimanche, la dame communie, immédiatement après la communion, au prêtre, elle quitte l'église. Et le Saint Philippe Néri, qui était prêtre, avait demandé à ses 2 servants de messe, vous venez avec les bougies, vous suivez la dame dehors. Les 2 servants de messe, en soutane et surplis, sont arrivés avec les deux bougeoirs et suivaient la dame dehors. Évidemment, était un peu gêné, elle regarde, elle dit, pourquoi vous me suivez comme ça? Pour adorer notre Seigneur que vous voulez pas adorer. Elle a compris? Vous voyez, mes bien chers frères, il faut impérativement comprendre tout cela. La charité, si vous voulez, c'est le système des vases communicants. Les talents, c'est ça, c'est les vases communicants. Je me remplis du bon Dieu, mais je me remplis du bon Dieu pas simplement pour moi, je me remplis du bon Dieu pour faire communiquer par moi la grâce sanctifiante aux autres. Le bon Dieu se sert d'instrument, mes bien chers frères. Et il se sert d'instrument extrêmement faible. Parfois, on se demande pourquoi il va prendre des instruments pareils. Regardez Sainte Jeanne d'Arc. Quelle idée. Et choisir comme chef de guerre une gamine de 17 ans, qui ne savait même pas parler français, incapable d'écrire 2 mots, en français. Eh bien, cet enfant de 17 ans, cet adolescent de 17 ans, est venu chef de guerre. Est venu chef de guerre pour remplir sa mission de bouter les Anglais hors de France et de faire consacrer le dauphin, qui va devenir un futur roi, qui va devenir le roi de France. Et encore une fois, des choses qui sont incompréhensibles, parce que ce roi, Charles VII, n'est pas du tout considéré comme un bon roi. Mais c'est pareil pour nous, mes bien chers frères. Il faut justement que nous soyons le sel de la terre, que nous soyons la lumière du monde. Est-ce que nous sommes la lumière du monde? Est-ce que je suis la lumière du monde dans ma famille? Est-ce que je suis le sel de la terre dans ma famille? Est-ce que les gens autour de moi, me voyant vivre, peuvent voir notre Seigneur Jésus-Christ derrière tout ce que je fais? Alors prenons, mes bien chers frères, bien sûr, prenons l'exemple de la très sainte Vierge Marie. S'il y en a une qui a été la lumière du monde, c'est bien elle. Hein. Elle a été la lumière du monde et est devenue ce porte-Christ. Elle était vraiment un porte-Dieu par excellence, parce qu'elle est devenue, les pères de l'Église la comparent au ciboire qui est caché dans le tabernacle, qui contient les hosties consacrées. Et ce ciboire est couvert d'un pavillon qui représente justement l'humanité qui cache la divinité. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces belles choses. Ayant cette fierté de la foi. La foi catholique, parce que la foi catholique est l'unique vraie foi. Ayant cette compréhension que nous avons en nous, nous portons en nous des choses extraordinaires, et que ces choses extraordinaires que nous portons ne nous appartiennent pas, mes bien chers frères. Puisque nous avons reçu toutes ces grâces, qu'est-ce que demande le bon Dieu? Il demande à ce que ces grâces, nous les portions, que justement nous soyons celles de la terre, nous soyons la lumière du monde, que nous soyons le grain de semé, que nous soyons le levain dans la farine. Est-ce que je suis un levain? Est-ce que je suis un grain de sénévé? Est-ce que je me contente de rester dans la terre? Je dois lever, je dois devenir un arbre. Il faut que mon arbre puisse porter les nids. Il faut que la vie nouvelle vienne d'avec moi. C'est ces oiseaux du ciel qui viennent se poser sur l'arbre, qui viennent du grain de sénévé. Ça représente justement l'esprit missionnaire de l'Église, le prosélytisme de l'Église, pour convertir les âmes, amener les âmes à Dieu et ramener le plus d'âmes vers notre Seigneur Jésus-Christ. Le bon Dieu nous utilise comme des instruments. Imaginez que la très sainte Vierge Marie, lorsque l'ange Gabriel est venu lui demander d'être la mère de Dieu, qu'elle ait dit non. Elle a pu dire non. Elle a pu dire mère de Dieu, ça veut dire la croix, ça veut dire que les problèmes, non, pas question de chercher quelqu'un d'autre. Imaginez s'il avait dit ça. Imaginez que notre Seigneur Jésus-Christ ait dit à son Père, pourquoi aller mourir pour ces gens? Vous me demandez à mourir d'aller subir une passion épouvantable pour des gens qui ne s'occupent même pas de moi. La plupart ne vont même pas s'occuper de moi. Notre Seigneur Jésus-Christ était obéissant à son Père, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, nous dit saint Paul. Pareil pour nous. Nous ici, pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, il faut crucifier nos concupiscences. Crucifier nos concupiscences, utiliser la confession, utiliser la communion, utiliser la dévotion à la très sainte Vierge Marie pour se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Pensons à tout ça, mes bien chers frères. Nous arrivons à la fin de l'année liturgique. Dimanche prochain, c'est le dernier dimanche de après la Pentecôte. Et dès le dimanche suivant, le premier dimanche du mois de décembre, c'est l'Avent. On recommence une nouvelle année liturgique et il faut que nous ayons à la fin de cette année liturgique, plus d'amour du bon Dieu qu'au début de l'année liturgique. C'est arrivé un de mes confrères, il fêtait ses 40 ans de sacerdoce, et dans sa paroisse, le paroissien avait évidemment organisé une petite fête. Et puis au cours du repas qui a suivi, le micro passait entre les personnes, et chacun disait un petit mot pour encourager le prêtre. Et puis un petit enfant de 7-8 ans qui demande à avoir le micro. C'est ce prêtre qui me l'a raconté. Il prend le micro et il dit, monsieur l'abbé, j'ai une question pour vous. Et le prêtre dit, mais bien sûr mon enfant. Monsieur l'abbé, vous avez 40 ans de sacerdoce. Est-ce que vous avez plus d'amour pour le bon Dieu aujourd'hui qu'il y a 40 ans? Grave question. Bien sûr que ça fait réfléchir le prêtre ce qu'il me dit. C'est pareil pour nous. Je viens tous les dimanches à la messe ici, depuis plusieurs mois, plusieurs années pour certains d'entre vous. Est-ce que j'ai plus d'amour dans mon âme pour le bon Dieu que j'en avais il y a 6 mois ou il y a 1 an? Est-ce que j'utilise justement toutes ces grâces que le bon Dieu me demande? Est-ce que j'utilise tous ces dons, tous ces talents? Est-ce que je suis le ciel de la terre? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que je me renfronte sur moi-même en pensant qu'à mes difficultés, en oubliant que je dois être le sel de la terre? Alors prenons, mes bien chers frères, encore une fois, demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie pour être vraiment l'arbre qui va recevoir les grâces pour les autres, le vin qui fait lever la table, la pâte pour que nous soyons à la fois pain pour nourrir les âmes et lumière pour éclairer ces âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.